et 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Avec vous, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le coronavirus a touché plus d'un million de personnes en Afrique du Sud et le pays doit faire face à une variante du Covid-19 qui se transmet plus facilement. Pourtant, fêtes et rassemblements ont toujours lieu dans le pays. Nous irons à Johannesburg. En France, inquiétude dans la région Grand Est et dans les Alpes-Maritimes. Des élus réclament des mesures plus restrictives, voire un reconfinement local pour limiter les contaminations. Nous ferons le point avec Sophie Delpont sur la difficile coordination entre État et collectivités locales. Le dossier du journal est consacré aux 100 ans du Parti communiste français, premier parti dont la France de l'après-guerre il a décliné à partir des années 70. Aujourd'hui, où en est-il? Nous le verrons avec Antoine Marette. La facture des catastrophes climatiques toujours plus salée, selon l'ONG britannique Christian Aid. Les 10 catastrophes météo les plus coûteuses de l'année 2020 ont provoqué près de 150 milliards de dollars de dommages assurés. Explication de Véronique Reberotte. L'Afrique a été plus épargnée que d'autres continents par la pandémie de Covid-19, mais en Afrique du Sud, maintenant, la situation devient particulièrement préoccupante. Le pays le plus touché du continent a franchi ce week-end la barre du million de cas recensés depuis le début de l'épidémie et il compte plus de 26 000 morts. L'Afrique du Sud subit actuellement une seconde vague avec une variante du virus plus contagieuse. Pourtant, les mesures dictées par le gouvernement sud-africain sont beaucoup moins strictes que lors de la première vague et en pleine vacances d'été, Claire Bargelès, il est encore permis de faire la fête.
Pour occuper les enfants en cette chaude journée d'été, une piscine gonflable a été installée sur un trottoir de Soweto. Sous un parasol, Precious savoure une bière avec un petit groupe de proches.
Ça nous manque vraiment de pouvoir vivre normalement. C'est sûr, on est fatigué du confinement, alors on a décidé de passer du bon temps ici. Mais on ne veut pas que trop de gens nous rejoignent, car ce corona, c'est du sérieux.
À 28 ans, Amanda prend quant à elle beaucoup moins de précautions et profite des vacances pour sortir danser avec ses amis.
Bien sûr, la sécurité avant tout, mais on est vraiment fatigué de tout ça. On n'en peut plus d'être enfermé chez nous. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'a qu'une vie, mais bon, il faut sortir. C'est dur de devoir se restreindre.
Car malgré la deuxième vague, les bars et les clubs sont toujours ouverts et peuvent accueillir jusqu'à 100 personnes en intérieur. Les masques sont souvent retirés une fois l'entrée passée. Pour Siyabonga, tout cela n'encourage pas à être prudent.
Je pense que comme les mesures sont maintenant moins strictes, ça nous pousse à être un peu plus relâchés vis-à-vis des règles. Et ça nous encourage à continuer à sortir et à prendre tout cela un peu moins au sérieux.
Le président Cyril Ramaphosa pourrait annoncer dès ce soir un renforcement des restrictions en vue des fêtes du Nouvel An.
Claire Bargelès à Johannesburg pour France Culture. Le Royaume-Uni doit lui aussi faire face à une version du Covid-19 très contagieuse qui se propage à toute allure, entraînant un record de contamination. Des cas ont déjà été signalés également en Espagne, en France ou encore en Corée du Sud. Alors que sait-on aujourd'hui de ce variant britannique, Tara Schlegel, et à quel point doit-on le redouter ?
Pour relativiser un peu l'effervescence qui règne autour de cette nouvelle souche, il faut d'abord rappeler que tous les virus mutent et que les chercheurs ont déjà identifié au moins 4000 mutations individuelles du SARS-CoV-2. Et si on compte les combinaisons possibles, on aurait observé environ 200 000 variants différents du nouveau coronavirus. Ce qui rend le variant britannique important, c'est que ces mutations concernent la protéine Spike, qui est la protéine qu'on trouve à la surface du virus et qui va s'accrocher au récepteur ACE2 de nos cellules humaines. Pour être plus précis, encore, ce nouveau coronavirus contiendrait 8 mutations dans la protéine Spike, dont la mutation d'un acide aminé qui se trouve en position 501 sur le millier d'acides aminés que contient Spike. D'où le nom de cette mutation N501Y, car l'acide aminé aspargine a été transformé en tyrosine qu'on symbolise par un Y. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que cette infime mutation permet a priori effectivement au virus de mieux s'accrocher à nos récepteurs ACE2 et donc de mieux nous infecter. Mais cela ne veut absolument pas dire, Aurélie, que cette nouvelle souche est plus dangereuse. Simplement qu'elle peut dominer car elle se propage plus vite. L'une des grandes questions est de savoir si le vaccin Pfizer, le seul actuellement sur le marché en Europe, sera toujours efficace contre cette variante britannique. Alors pour l'instant, la réponse est oui, parce que a priori, cette mutation ne va pas transformer la protéine au point que les anticorps ne seront plus efficaces contre elle. Parce que le vaccin induit plusieurs anticorps en même temps, capables d'attaquer plus plusieurs régions de la protéine et que, heureusement, ces anticorps ne se focalisent pas sur la séquence d'acides aminés qui a muté. Bref, normalement, le vaccin va aussi protéger contre ce variant, mais tout ça, c'est encore sur le papier parce que dans la vie réelle, on n'a pas pu tester le vaccin sur cette nouvelle souche.
Merci Tara Schlegel. Les livraisons de vaccins contre le Covid-19 ont pris un peu de retard dans 8 pays européens en raison d'un problème logistique à l'usine Pfizer en Belgique. Mais la plupart des pays de l'Union ont commencé à vacciner leur population ce week-end. Ce sont pour l'essentiel des personnes âgées et des soignants qui ont été vaccinés. Parmi les vaccins validés par l'Agence européenne des médicaments, aucun ne provient de laboratoires ou d'instituts français. Alors le vaccin contre le Covid-19 signe-t-il l'échec de la recherche française? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat. Rendez-vous à 18h20. En France, un conseil de défense sanitaire sera organisé demain. L'ambiance est maussade car les contaminations ne baissent pas. Le Grand Est fait même face à un rebond de l'épidémie et plusieurs élus réclament un reconfinement local, départemental ou régional. Dans les Alpes-Maritimes aussi, la situation est tendue et le maire de Nice, Christian Estrosi, juge indispensable de nouvelles mesures restrictives, Sophie Delpont.
Parmi les annonces de Christian Estrosi, le maire de Nice envisage un couvre-feu anticipé.
Nous allons demander au préfet des Alpes-Maritimes de prendre des mesures de couvre-feu sur les secteurs où nous relevons qu'il y a une circulation du virus plus élevée qu'ailleurs, qui se fasse à une heure plus avancée, à savoir 18h ou 19h.
Il demande aussi au gouvernement qu'il impose aux compagnies aériennes de tester tous leurs passagers, quelle que soit leur provenance, mais aussi la réciprocité de la quarantaine entre la France et l'Italie, ainsi que la limitation des déplacements entre les Alpes-Maritimes et la Principauté de Monaco, où les hôtels et restaurants sont ouverts. La marge de manœuvre directe des maires dans les mesures de restriction reste très limitée, souligne le politologue à Sciences Po Bordeaux, Jean Petaut, rappelant les tentatives d'arrêtés municipaux ces derniers mois.
Le risque, c'est que ces arrêtés municipaux soient attaqués. On l'a déjà vu d'ailleurs avec des thématiques autour du couvre-feu partiel ou limité au territoire de la commune, qui soient attaqués par des personnes qui s'opposeront à ces arrêtés municipaux.
Le député centriste Charles de Courson regrette que la répartition des responsabilités entre l'État et les collectivités n'ait pas bougé depuis le premier confinement.
La réponse en droit est très simple. La lutte contre les épidémies, les pandémies, c'est une responsabilité exclusive de l'État. Tout remonte au niveau central. Et donc, c'est la grande critique qu'on peut faire à l'organisation française, si vous voulez, c'est cette hyper-centralisation entre les mains de la direction de la santé et du ministre, c'est qui tout répond. Si vous avez lu les deux rapports parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, le problème, il est sur la table. Est-ce qu'il y aura des décisions dans le cadre de la loi 3D qu'on attend dans un mois, deux mois, on ne sait pas très bien, on verra.
La loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration doit être débattue au Parlement au premier semestre 2021.
Sophie Delpont, le deuxième confinement qui s'est achevé avant Noël aurait-il déjà des effets sur l'emploi? Les chiffres publiés par la DARES en charge des statistiques pour le ministère du Travail montrent en tout cas une hausse au mois de novembre des chômeurs en catégorie A. Le nombre de chômeurs sans aucune activité inscrit à Pôle emploi a augmenté de 0,9%, soit 34 400 personnes supplémentaires. C'est la première hausse après 6 mois consécutifs de baisse de cet indicateur, en cause notamment des contrats précaires arrêtés ou non renouvelés, Thomas Giraudeau.
D'où viennent ces nouveaux chômeurs inscrits en catégorie A? D'abord des nouvelles inscriptions à Pôle emploi, mais surtout des transferts d'autres catégories, des employés précaires qui travaillaient un peu et n'ont plus rien aujourd'hui. Anne Edou est maîtresse de conférence en économie au Centre national des arts et métiers et spécialiste des politiques d'emploi.
On a des réductions d'effectifs dans les entreprises qui passent surtout par l'annulation ou le report d'embauche qu'elles avaient prévu, ou bien par les non-renouvellements de CDD. Effectivement, la traduction du côté du chômage, c'est que à la fois on a des nouvelles entrées dans la catégorie A, mais on a aussi moins de sorties, y compris en emploi précaire, puisque c'est des CDD qui ne sont pas renouvelés.
Depuis le début de la crise sanitaire, on observe ces phénomènes de vase communicant où, à la faveur des confinements et déconfinements, des chômeurs passent d'une catégorie Pôle emploi à l'autre, mais on compte peu de nouveau des salariés en CDI perdant toute activité. Les conséquences sur l'emploi de la crise sanitaire se feront surtout sentir l'année prochaine, selon Bertrand Martineau, économiste et spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne.
Pour l'instant, vous avez une intervention sans précédent en période de paix de la part de l'État qui met une grande partie de l'économie sous cloche, en fait, et qui fait que ces diminutions d'effectifs aujourd'hui ne se font pas. Mais en sortie de crise, au moment où progressivement le gouvernement va retirer les aides économiques aux entreprises, les entreprises vont devoir reconstituer leurs marges, c'est-à-dire faire des gains de productivité. Malheureusement, à court terme, généralement, ça se traduit par des compressions d'effectifs.
La Banque de France estime que le chômage devrait atteindre un pic à 11% au premier semestre 2021.
Thomas Giraudot, il y a 100 ans naissait le Parti communiste français. En décembre 1920, le congrès de Tours marque la division de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. À la suite de la révolution russe, une majorité de militants décide de s'affilier à l'Internationale communiste et crée donc un nouveau parti qui deviendra le PCF. Le Parti communiste français connaîtra un âge d'or dans l'après-guerre avant de décliner inexorablement à partir des années 70. 100 ans après sa création, que reste-t-il du Parti communiste français, Antoine Maret.
Du Parti communiste français, il reste d'abord cet incroyable bâtiment de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le siège, achevé il y a 40 ans, cette coupole à moitié enterrée qui dialogue avec un bâtiment qui ondule. Le parti y tient comme à la prunelle de ses yeux et pourtant en 2002, après la campagne présidentielle très coûteuse de Robert Rue, qui s'est soldée par un score très faible, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Guillaume Rouboukouachi est historien en charge du centenaire.
Il a fallu vendre beaucoup de structures qui appartenaient encore au Parti communiste, des bâtiments qui avaient été construits après la résistance, qu'il a fallu vendre dans l'urgence et le bâtiment aurait pu être vendu. Tout a été fait pour ne pas en arriver là parce qu'évidemment, symboliquement au moins, ça aurait été très très difficile.
Tout a été fait pour garder ce bâtiment, y compris des choses étonnantes.
Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, Robert Rue avait accepté notamment qu'un défilé de mode soit fait, notamment pour Prada. Il faut placer ça dans un contexte plus global. On est dans les années 90, tout un monde s'effondre et le Parti communiste français décide de rester communiste, mais de l'être autrement, et il cherche une voie. Et Robert Rue, je pense que c'est un moment de cette recherche. Bon, un moment qui se termine mal, mais un moment de cette recherche.
Un moment difficile, loin de l'âge d'or du PCF, premier parti dans la France de l'après-guerre. Il n'obtiendra pourtant jamais le pouvoir au niveau national. Mais selon son secrétaire national actuel, Fabien Roussel, le PCF peut malgré tout s'enorgueillir de plusieurs conquêtes sociales.
Notre objectif, ce n'est pas la conquête du pouvoir, c'est de gagner des conquêtes pour les gens. Nous acceptons de participer au gouvernement du général de Gaulle parce que nous savons que nous allons mettre en place une retraite pour tous et la sécurité sociale. Nous acceptons de participer au gouvernement de Mitterrand parce que nous savons que nous allons gagner la cinquième semaine de congé payé et la semaine des 39 heures et la retraite à 60 ans. Nous ne sommes pas obsédés par le pouvoir. Nous sommes obsédés, en revanche, par la conquête d'avancées importantes pour les gens. Quand bien même nous ne sommes pas au pouvoir, c'est ça qui nous préoccupe le plus. C'est d'améliorer la vie des gens, d'être utile.
La question du moment pour le PCF, c'est comment être utile en 2022 ? En se rangeant derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme ce fut le cas lors des deux dernières présidentielles, ou en présentant son propre candidat. Sur ce point, la réponse du politologue Pascal Perrineau est sans appel.
Je dirais attention, parce que la déception peut être de même ampleur que celle qui avait été constatée par Marie-Georges Buffet en 2007, de faire moins de 2%. Il ne faut pas que le Parti communiste oublie ses très faibles scores aux dernières législatives de 2017, où il avait voulu se compter contre la France insoumise, et en général il était dominé dans beaucoup de circonscriptions par la France insoumise, puis n'oublions pas aussi l'échec des dernières européennes. Donc pour le Parti communiste, il y a, oui, un véritable danger que la prochaine élection présidentielle soit la mesure de sa marginalité, alors qu'avec une candidature, que ce soit celle de Mélenchon ou d'autres, d'une certaine manière, il peut revendiquer un succès qui n'est pas tout à fait le sien.
Car le déclin du PCF semble quasi inexorable depuis la fin des années 70. Et pourtant, il reste un parti qui compte dans le paysage politique et peut-être aussi dans l'imaginaire français. Un parti avec peu d'électeurs, mais un nombre encore significatif de militants, si l'on en croit la direction, qui revendique 40 000 adhérents à jour de cotisation.
Que reste-t-il du Parti communiste français en 2020 ? Un dossier signé Antoine Maret. À Amber, dans le Puy-de-Dôme, 3 cercueils recouverts d'un drapeau tricolore. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Armées ont assisté à l'hommage national rendu aux 3 gendarmes tués mardi dernier. 3 vies sacrifiées pour en sauver une, a déclaré Gérald Darmanin. Malgré notre peine, il n'y a pas plus noble sacrifice que celui-là. Les 3 gendarmes tentaient de porter secours à une femme menacée par son ex-mari, cet homme violent qui avait mis le feu à la maison a tiré sur les militaires, les blessant mortellement. Aujourd'hui donc, les habitants d'Amber et des communes voisines ont suivi l'hommage national sur grand écran. Reportage de Mathilde Marty.
Le froid et l'humidité tombent sur la place où est retransmise la cérémonie grâce à un écran géant. Les habitants, toutes générations confondues, écoutent en silence. Les discours des ministres suivent la remise des décorations. Les commerces de cette commune de 7000 habitants ont baissé le rideau.
C'est des gens qui ont donné leur vie, mais c'est important d'être là. C'est choquant, oui, de voir ça dans notre ville.
Je pense à toute la compagnie, à tous ceux qui ont vécu ce drame, pour qui Noël sera chaque année une piqûre de rappel, pour qui sera difficile aussi d'apprendre à vivre avec et sans eux.
Par rapport à ce qui s'est passé, beaucoup de questions, hein, point d'interrogation, mais quand même, si tout le monde avait bien fait son travail, ça aurait peut-être pu être évité, peut-être.
3 vies sacrifiées, souligne Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui co-préside la cérémonie avec Florence Parly, la ministre des Armées.
Et c'est bien la nation qui aujourd'hui pleure la perte de ses 3 fils. 3 gendarmes tombés en mission, animés par le service de la France. 3 vies sacrifiées pour en sauver une autre. Et malgré notre peine, il faut le dire, il n'y a pas plus noble sacrifice que celui-là.
La Légion d'honneur est remise à titre posthume aux 3 gendarmes, Cyril Morel, 45 ans, Rémi Dupuis, 37 ans et le plus jeune, Arnaud Mavel, 21 ans.
Mathilde Imberti à Amber, dans le Puy-de-Dôme. Les diplomaties françaises et allemandes demandent la libération rapide de la militante saoudienne Loujain Al-Hatloul. Elle se battait pour que les femmes obtiennent le droit de conduire en Arabie Saoudite. Mais si les saoudiennes peuvent bel et bien prendre le volant depuis 2 ans, la militante féministe, elle, va rester en prison. Arrêtée en mai 2018 avec d'autres activistes, elle vient d'être condamnée à 5 ans et 8 mois de prison au Marwaman.
Loujain Al-Hatloul avait été arrêtée à Riyad en mai 2018 avec au moins une douzaine d'autres militantes des droits des femmes. Elle est incarcérée, accusée d'avoir transmis des informations confidentielles à des États hostiles au royaume saoudien qui n'a jamais apporté de preuves pour appuyer cette accusation. En prison, elle raconte à ses proches les conditions de sa détention entre torture, menaces de mort et harcèlement sexuel. Inquiète de son sort, des ONG comme Human Rights Watch alertent l'opinion publique mondiale, appellent au boycott du G20 présidé par le prince héritier Mohamed Ben Salman, mais seuls quelques voix timides s'élèvent, comme celle d'Emmanuel Macron en 2019 lors de la remise du prix Simone Veil à Paris, qui évoque le cas de la militante de 31 ans incarcérée, je cite, pour avoir critiqué le système saoudien qui place les femmes sous la tutelle des hommes. Car la diplômée de l'Université canadienne de Colombie-Britannique a fait du combat pour l'égalité sa raison de vivre. Ses actions relayées sur les réseaux sociaux ont notamment permis la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire en Arabie Saoudite.
Les ambassadeurs des 27 auprès de l'Union européenne ont dit oui à l'unanimité. Ils ont donné leur aval à une application provisoire de l'accord commercial trouvé la semaine dernière avec le Royaume-Uni. L'accord post-Brexit doit à présent être approuvé par écrit par les gouvernements des 27 États membres de l'Union d'ici demain après-midi pour une entrée en vigueur vendredi, le 1er janvier. Mais il fallait s'y attendre. Cet accord ne fait pas que des heureux. Il faut du temps et de l'expertise pour lire et comprendre l'imposant document de 1200 pages et déjà... Les pêcheurs britanniques, qui espéraient une révision drastique des quotas, s'estiment floués par leur gouvernement. Et ils le lui disent aujourd'hui de manière très directe. La correspondance de Richard Place à Londres.
En colère, déçu et trahi, Andrew Locker n'a pas besoin de 1200 pages pour exprimer ce qu'il ressent. Il préside la Fédération nationale des organisations de pêcheurs britanniques et il en veut beaucoup au Premier ministre et à ses promesses qu'il juge non tenues.
Quand Boris Johnson et son gouvernement ont promis le Brexit aux pêcheurs, ils ont promis qu'aucun d'entre nous ne serait perdant. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a un nombre considérable de représentants de la pêche, de familles, de petites communautés qui seront mal en point avec cet accord.
Boris Johnson avait fait de la pêche l'un des sujets principaux de ces interminables négociations. Parce que c'est le symbole de la souveraineté maritime retrouvée, aussi parce que les pêcheurs avaient majoritairement voté pour le Brexit, ils se voyaient déjà régner seuls sur les eaux poissonneuses qui entourent le royaume, débarrassés des filets français, espagnols ou néerlandais. Ils les retrouveront donc après le 31 décembre, et même si les Européens vont baisser leur quota de pêche de 25% d'ici 2026, C'est insuffisant aux yeux des pêcheurs britanniques.
Richard Place, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Inondations, cyclones, incendies, les événements météo extrêmes deviennent plus fréquents avec le réchauffement climatique et la facture s'alourdit un peu plus chaque année. Selon l'ONG britannique Christian Aid, les 10 catastrophes météo les plus coûteuses de l'année 2020 ont fait 3500 morts, déplacé plus de 13,5 millions de personnes et provoqué près de 150 milliards de dollars de dommages assurés, Véronique Reberotte.
Le rapport passe en revue les tempêtes, les inondations, les ouragans, les typhons, les canicules et les incendies de l'année écoulée. Mais ne prend en compte, insiste l'ONG, que les dégâts concernant des biens assurés. Ce pourrait être pire. En 2020, le coût économique des catastrophes liées au dérèglement climatique explose, prouvant, s'il le fallait, l'impact grandissant du réchauffement sur les économies mondiales, surtout les plus riches. Presque 150 milliards de dollars au total, dû notamment à l'explosion du nombre d'ouragans dans l'Atlantique, les doux prénoms donnés à ces ouragans et tempêtes qui ont frappé les Caraïbes, l'Amérique centrale et les États-Unis, contrastent avec leur caractère destructeur. Catherine Kramer, de l'ONG britannique Christian Aid.
Ça a été une année particulière par son nombre d'ouragans. Plus de 39 ouragans qui ont causé 40 milliards de dollars de dégâts et tué 400 personnes. L'année 2020 détient le record du nombre d'ouragans les plus dévastateurs. Ils étaient particulièrement violents. Des pluies diluviennes arrivent avec ces ouragans liés au réchauffement climatique et provoquent des inondations. Cinq des catastrophes les plus coûteuses de 2020 ont été provoquées par une mousson particulièrement importante en Asie. L'Europe n'a pas été épargnée. La tempête Alex, qui a touché cet automne la France et l'Italie, a fait 16 morts et causé pour 3,2 milliards de dollars de dommages.
Demain mardi, il faudra compter avec de nombreuses averses avant une lente amélioration. En fin de journée, il neigera en montagne. Forte gelée demain matin dans les Alpes. L'après-midi, 4 à 10 degrés d'est en ouest, 7 à 15 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Thank you.